Cinquième, géographie, thème 2, des ressources limitées à gérer et à renouveler. Alors ici, on est sur l'activité qui concerne l'alimentation, avec cette question, comment nourrir une humanité en croissance démographique? On est à 8 milliards d'habitants, on sera bientôt à 10 milliards, et aux besoins alimentaires accrus. Donc il y avait dans cette activité 7 vidéos à observer. Alors je vais rappeler rapidement les vidéos et ensuite à partir de là il fallait remplir un tableau, un schéma. Et je donnerai donc les réponses de ce schéma et je ferai des commentaires. Donc sur les 8 vidéos, pardon, on avait la vidéo 1 qui concernait l'Afrique avec donc ce terme de révolution verte. Donc révolution verte, c'est lorsqu'on change complètement de système de production agricole et on passe d'un système donc ancien, traditionnel, à un système moderne, mécanique, avec donc des machines, avec des produits chimiques, comme on l'a fait en France depuis maintenant plus d'un siècle. La deuxième vidéo concernait l'Inde, avec une société aujourd'hui allemande, qui était longtemps américaine, qui s'appelle Monsanto, et qui a utilisé l'Inde pour notamment faire du coton transgénique, donc coton qui en principe devait produire plus de matière attendue, le coton, hein, si je rappelle c'est une fleur, le coton, mais qui a eu des effets secondaires assez négatifs, notamment avec des productions qui étaient finalement pas si importantes que ça, et puis avec aussi des agriculteurs qui ont développé un certain nombre de maladies plus ou moins mortelles. La troisième vidéo, elle portait sur la Malaisie. La Malaisie, donc, avec une des îles de la Malaisie qui s'appelle l'île de Bornéo. Et dans cette île, donc, on a, comme en Amazonie, une forêt naturelle. On parle de forêt vierge, une des plus belles forêts du monde. Et cette forêt, elle est en partie aujourd'hui détruite. On parle de déforestation pour la remplacer par la production d'arbres à palmes, qui permettent de fabriquer de l'huile et qui ensuite cette huile est utilisée dans un certain nombre de produits, que ce soit des produits alimentaires comme les pâtes à tartiner ou que ce soit dans des dentifrices, dans des shampoings, etc. Donc cette destruction de la forêt, évidemment, elle a des conséquences multiples pour les insectes, pour les animaux, pour les hommes qui vivent dedans et également donc pour le climat, puisque je rappelle, hein, les arbres permettent de piéger le gaz carbonique et produisent à l'inverse de l'oxygène. Donc si on détruit ces forêts qui ont une importance au niveau planétaire, comme notamment aussi les océans pour la production de ce type d'effets chimiques, eh bien donc on accélère le réchauffement climatique sur la planète. La quatrième vidéo concernait également l'Inde avec un autre exemple sur l'agriculture. La vidéo 5 donc montrait le lien entre l'agriculture industrielle et les révolutions. Et enfin, vidéo 6 et 7, eh bien, faisaient et là je vous conseille de réécouter la vidéo 6 et la vidéo 7. Donc vidéo 6, comment nourrir la planète. Vidéo 7, le paradoxe de la faim dans le monde. Donc il s'agissait de faire une synthèse, hein, d'essayer de trouver des solutions à cette question qui est très compliquée. 8 milliards d'habitants, 10 milliards bientôt. Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puisse être nourri correctement, sans pour autant polluer le vivant, l'environnement, les hommes, les animaux, également la question par exemple du bien-être de l'animal. Donc ce sont des questions qui sont assez complexes et qui sont des questions qu'on va appeler des questions globales. Ça veut dire que tout le monde est concerné, que ça soit l'agriculteur, que ça soit le consommateur, que ce soit les pays riches ou que ce soit les pays pauvres. Alors, le schéma qu'il fallait construire, donc on était sur la base croissance démographique mondiale forte, on avait au centre les politiques agricoles, révolution agricole ou révolution verte, c'est le même terme, hein, donc modification complète de la façon de produire. Cette base était divisée en deux, subdivisée en deux. D'un côté, l'intensification des récoltes, c'est-à-dire l'augmentation des récoltes, et de l'autre côté, l'extension des cultures, c'est-à-dire l'utilisation de nouvelles terres pour augmenter les productions. On en reparlera après. Ensuite, à gauche, on avait les réussites des politiques agricoles. Donc, il s'agissait de noter les effets positifs de ces politiques agricoles. Et à droite, on avait au contraire les limites et les problèmes posés par ces politiques agricoles. Donc, toutes les conséquences négatives de ces politiques agricoles. Alors, on va revenir sur l'endroit central. Donc, les politiques agricoles, révolution verte, révolution agricole. Donc, première chose, l'intensification des récoltes. Donc, d'abord, les semences sélectionnées. Aujourd'hui, on sélectionne donc, je rappelle, hein, pour par exemple le maïs, on a des types de maïs qui sont sélectionnés d'avance. Donc, on a privilégié par exemple telle semence parce qu'elle utilise moins d'eau, ou telle semence parce qu'elle pousse plus vite, ou parce qu'elle donne plus d'épis. Ce qui a amené donc à des semences particulières qu'on appelle les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Donc si je reprends par exemple le cas du maïs, on va sélectionner des maïs qui vont résister à des produits chimiques, par exemple des herbicides qui sont eux prévus pour tuer des mauvaises herbes. On va donc modifier la séquence génétique du maïs et qu'on va donc ensuite vendre à l'agriculteur. Alors, dans le cas de la France, en principe, les OGM sont interdits, les organismes génétiquement modifiés sont interdits. Donc, en principe, en France, on n'a pas de maïs OGM. Par contre, on va en avoir aux États-Unis, on va en avoir en Inde, on va en avoir en Chine, on va en avoir au Brésil. L'intensification des récoltes, elle passe également par une maîtrise de l'eau. Hein, on sait tous que pour l'agriculture, il faut irriguer. Et donc, pour cela, il faut amener l'eau, donc de différentes manières. On peut asperger, on peut utiliser le goutte-à-goutte, on peut aller chercher l'eau sous terre, on peut amener l'eau par des canalisations, on peut utiliser l'eau de mer à condition de la dessaler. Donc, on a des machines, on a des usines de dessalement d'eau de mer. Voilà, évidemment, tout ça, ça demande une certaine maîtrise et ça demande aussi parfois de l'énergie. Par exemple, pour dessaler l'eau de mer, il faut évidemment du pétrole, du gaz ou de l'électricité. Toujours dans l'intensification des récoltes, pour augmenter les récoltes, on va utiliser des engrais chimiques, donc qui vont permettre soit de nourrir la terre, soit de nourrir la plante. A l'inverse, on va utiliser des pesticides pour tuer un certain nombre d'êtres vivants qui pourraient attaquer les plantes, des insecticides, donc là pour tuer spécifiquement des insectes. On peut utiliser également dans les organismes génétiquement modifiés, on peut inclure des insecticides dedans. On va également utiliser des herbicides, donc cette fois-ci des produits chimiques pour tuer les mauvaises herbes. Et enfin, dernier point pour l'intensification des récoltes, on va utiliser un certain nombre d'outils mécaniques. On va parler de mécanisation, des tracteurs, des machines pour semer, des machines pour retourner la terre, des machines pour récolter, des machines pour traiter. On va jusqu'à utiliser parfois des hélicoptères ou des avions pour, par exemple, répandre des insecticides ou des pesticides. Donc on va parler de mécanisation, ce qui permettra à l'agriculteur de travailler plus rapidement, plus efficacement et de travailler très souvent seul. L'extension maintenant, donc deuxième point toujours de cette révolution verte, l'extension des cultures et les fronts pionniers. Alors les fronts pionniers, ça veut dire qu'on va utiliser des nouvelles terres, et notamment on va travailler sur les forêts, les anciennes forêts, c'est-à-dire les forêts primaires, les premières forêts, comme par exemple la forêt amazonienne ou la forêt indonésienne. On va détruire ces forêts pour les remplacer par des cultures d'exportation. Donc par exemple, hein, on va aller détruire la forêt de Malaisie ou la forêt des Philippines, du Vietnam, mais aussi en Inde, au Brésil, en Côte d'Ivoire, donc là c'est pour l'Afrique, Burkina Faso toujours pour l'Afrique, ou l'Indonésie. On va donc détruire ces forêts, on va les couper pour ensuite cultiver du maïs, cultiver du soja, cultiver des arbres à palmes. On peut aussi des fois les détruire pour aller récupérer par exemple du fer, de l'or. Mais donc on va, nous dans notre cas, hein, on va étendre les cultures en détruisant les forêts. Donc on va pouvoir augmenter là aussi les productions agricoles. Donc là c'était pour, on était sur ce schéma, on était sur le point central, politique agricole, révolution verte. On va donc maintenant voir les effets. D'un côté, à gauche, les effets positifs de ces politiques agricoles, et puis ensuite dans la partie droite, on verra les limites et les problèmes posés par ces politiques agricoles. Donc sur les réussites, on a globalement deux réussites. La première, une augmentation nette des productions agricoles, et donc à partir de là, eh bien, une diminution très nette des famines. Donc clairement, si on prend l'exemple de l'Inde, hein, en Inde aujourd'hui, il n'y a plus de famine. La révolution verte, la révolution agricole en Inde, a permis de nourrir le 1,4 milliard d'Indiens. Aujourd'hui, sont nourris, il n'y a plus de problème de famine. Et globalement, à l'échelle mondiale, on a aujourd'hui très peu de famine. Ça ne veut pas dire qu'on soit correctement nourri. Il faut faire la différence entre mourir de faim, c'est la famine, et être en situation de sous-nutrition, ne pas être nourri donc suffisamment chaque jour, ou en situation de malnutrition, c'est-à-dire être mal nourri, avoir des carences, ou bien par exemple trop manger. Lorsqu'on est trop nourri, comme aux États-Unis ou dans les pays riches, y compris en France, on va parler aussi de malnutrition. Mais en tous les cas, globalement, c'est une réussite. On a aujourd'hui pratiquement plus de famine à l'échelle mondiale. Deuxième point positif de ces politiques agricoles, toujours à l'échelle mondiale, globalement, le niveau de vie des agriculteurs est plutôt amélioré. On parle bien au niveau mondial. Voilà donc les deux réussites de ces politiques agricoles. Maintenant, on va passer aux limites et aux problèmes. Alors là, malheureusement, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, première, je l'ai donné dans... Il n'y a pas d'ordre, hein, je l'ai donné... Et les commenter au fur et à mesure. Donc première chose, première limite, on a ce qu'on va avoir, ce qu'on va appeler des disparités régionales. Donc bien évidemment, d'un pays à un autre, d'une région à une autre, d'un espace à un autre, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. C'est lié au niveau de développement du pays, et puis c'est également lié au climat ou aux situations locales. On a également des inégalités sociales importantes. On a des agriculteurs qui restent des agriculteurs extrêmement pauvres, d'autres qui concentrent un certain nombre de richesses. Donc cette politique agricole n'a pas forcément résolu les inégalités sociales à l'intérieur des pays, entre les pays ou entre les agriculteurs. Troisième difficulté, qui est une difficulté qui s'est amplifiée, c'est la dépendance à l'égard des grandes firmes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un agriculteur, par exemple, de coton en Inde, va dépendre de firmes américaines ou de firmes allemandes pour obtenir ses semences. C'est-à-dire qu'avant, c'était relativement simple. Un agriculteur qui cultivait du coton, eh bien, il récoltait son coton, il gardait une partie des graines pour ressemer du coton l'année d'après, et puis l'autre partie, il vendait son coton. Aujourd'hui, hein, à partir du moment où on a des semences qui sont traitées à l'avance, notamment lorsqu'on a des organismes génétiquement modifiés, des OGM, eh bien en fait on a souvent des semences qui sont, on va dire, stériles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas garder les graines de votre coton, elles ne repousseront pas, vous êtes contraint de racheter à l'entreprise, à l'industrie qui vous a vendu vos semences, vos premières semences, vous êtes contraint de lui racheter vos semences. Comme vous êtes contraint aussi de lui acheter les produits chimiques pour traiter vos semences, comme vous êtes contraint d'acheter le matériel, la mécanisation, les tracteurs, etc. Donc on a aujourd'hui un agriculteur qui est totalement dépendant de firmes industrielles, souvent étrangères. On a également une consommation d'eau qui a augmenté fortement, évidemment, par l'augmentation des productions. Et donc la question se pose hein, de de cette façon d'irriguer. Si on prend le cas, par exemple, de la France, hein, si on prend dans le sud-ouest, bah, finalement, on se rend compte que le maïs qui consomme énormément d'eau, et notamment aspergé d'eau en été, on utilise très peu, par exemple, le goutte-à-goutte, qui est une technique qui permet de consommer beaucoup moins d'eau et qui finalement est beaucoup plus efficace puisque on a une moins grande évaporation de l'eau. Donc la consommation d'eau, elle pose problème. Elle pose évidemment d'autant plus problème lorsqu'on est dans une situation comme les climats méditerranéens, comme dans le sud-est de la France ou comme en Californie, on l'a vu cette année dans le programme, où là on a des sécheresses chaque année. Donc ça veut dire que on doit avoir une maîtrise de l'eau lorsqu'on on est agriculteur dans ces régions. Autre problème soulevé par ces politiques agricoles, c'est l'importance des engrais et des pesticides. Alors non seulement ça, l'agriculteur est tributaire, c'est-à-dire qu'il dépend de ces engrais et de ces pesticides, ça peut lui coûter très cher puisqu'il doit les acheter, mais également donc ces engrais, ces pesticides, eh bien sont dangereux et vont poser des problèmes environnementaux, on va dire globaux, c'est-à-dire pour les sols, ces sols vont être contaminés par ces engrais et ces pesticides, pour le vivant, pour les insectes, pour les plantes, pour les animaux, pour l'eau, pour l'air parfois, et pour les humains. Donc globalement, on a des questions graves de santé, de disparition d'espèces animales, du vivant, à commencer par exemple par les abeilles. Aujourd'hui, on sait que les abeilles, à l'échelle mondiale, sont en train de disparaître. Or, les abeilles, par exemple, hein, je rappelle que ce sont ces insectes qui naturellement vont assurer la pollinisation des arbres, des plantes, des fleurs. La pomme, hein, du pommier, la fleur, elle est pollinisée par les insectes qui viennent dans ces fleurs, donc notamment les abeilles et les bourdons. Or, les pesticides et les insecticides tuent soit les fleurs, soit les insectes, et notamment bourdons et abeilles. Donc à partir de là, on a parfois une pollinisation qui se fait d'une manière moins efficace ou qui ne se fait plus. Et donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un risque grave pour nourrir l'humanité. Donc santé également des habitants qui est mise en danger, je viens de le dire, hein, avec soit des conséquences directes, donc des agriculteurs qui tombent malades, suite à la manipulation des produits chimiques, ou bien des populations comme vous, comme moi, qui sont petit à petit empoisonnées par les aliments que nous consommons, parce que dans ce que nous allons manger, eh bien, nous allons retrouver en fait des pesticides. Je vous donne l'exemple, vous mangez des pâtes, hein. Eh bien, dans les pâtes c'est fait avec des céréales, c'est fait avec du blé par exemple, eh bien, si vous utilisez des produits chimiques pour produire du blé, vous allez retrouver dans vos pâtes ces produits chimiques que vous allez ensuite consommer. Autre difficulté engendrée par ces politiques agricoles, c'est l'endettement des agriculteurs. Les agriculteurs, effectivement, vont devoir acheter un certain nombre de matériels qui coûtent extrêmement cher, des tracteurs, on l'a dit, des machines pour récolter, des machines pour traiter, des produits chimiques. Ils vont devoir utiliser des aliments industriels pour nourrir par exemple leurs vaches, des farines comme des tourteaux de soja. Ils vont devoir acheter des bâtiments par exemple, la plupart aujourd'hui des poulets ou de la viande de bœuf que vous consommez provient d'élevages qui sont ce qu'on appelle les élevages hors sol, c'est-à-dire des animaux qui ne sortent jamais de bâtiments, qui vivent et qui sont engraissés dans des bâtiments, y compris aussi pour les porcs. Et donc, bah, ça veut dire avoir ces bâtiments. Et donc, les agriculteurs vont faire des crédits, vont demander de l'argent auprès des banques, et ils vont parfois s'endetter sur toute leur vie pour pouvoir avoir ce type d'agriculture. Donc, ça crée ce qu'on appelle un cercle vicieux. ces agriculteurs sont totalement liés, sont totalement dépendants de ces industries et de ce secteur financier, ce secteur bancaire. Enfin, dernière difficulté, les productions agricoles destinées à l'exportation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va par exemple détruire la forêt amazonienne, non pas pour nourrir les Brésiliens, non pas pour nourrir les populations locales, mais on va détruire la forêt amazonienne pour ensuite planter du soja, qui va nourrir les vaches américaines, du café, pour les pays européens ou les pays asiatiques, du cacao, même chose, ou par exemple pour produire de l'huile de palme. Donc on est sur des productions agricoles qui sont des productions industrielles, des productions qui sont des productions liées à l'exportation et non pas au vivant. Voilà, donc pour synthétiser et pour terminer, hein, ces politiques agricoles, eh bien, vous l'aurez compris, posent plus de problèmes qu'elles n'apportent finalement de solutions. Et donc, il est urgent, impératif qu'à l'échelle mondiale, qu'à l'échelle globale, eh bien, on redéfinisse une agriculture qui soit plus durable, qui soit plus respectueuse de l'environnement. Mais ça passe également donc par des schémas de consommation qui sont complètement différents. Et donc, ça veut dire aussi pour nous nous interroger sur ce que nous mangeons, comment nous mangeons, et peut-être pas forcément, par exemple, avoir des apports en protéines animales aussi importants que ce n'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que il suffirait peut-être de manger, au lieu de manger de la viande tous les jours, n'en manger que 3 fois par semaine, et peut-être de la viande de meilleure qualité, et puis passer par ensuite par des protéines d'origine végétale. Voilà, donc on est vraiment, vous voyez, sur un débat qui est très important, qui est très vaste, y compris un débat qui passe par une éducation importante à tous les niveaux.